Notre TGV arrive en gare de Guingamp. Avant de descendre, surtout, veillez à ne rien oublier à votre place. Pour des raisons de sécurité, merci d'attendre l'arrêt complet du train sur le quai pour descendre et de prendre garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. L'ensemble de l'équipage vous souhaite une très bonne fin de journée. Guingamp, prochaine gare d'arrêt.
J'avais vu il y a, je sais plus quel âge j'avais, de voir 22 ans, 23 ans, un documentaire sur les aborigènes d'Australie et il y avait du didgeridoo. Ça m'avait bluffé cet instrument. Et un an et demi plus tard, quand j'étais à La Rochelle, j'ai vu quelqu'un qui en vendait. Je suis allé voir et puis j'ai essayé et j'en ai acheté un. Voilà, parce que c'était rarement le truc. Le son me plaisait énormément et d'avoir soufflé dedans, essayé, ça confirmait aussi que ça me plaisait. J'ai tout d'abord appris à en jouer, ce qui n'était pas une mince affaire à l'époque, étant donné qu'il n'y avait absolument aucun cours. J'ai cherché à jouer, puis j'ai contaminé des copains, on a joué ensemble, on a appris ensemble. Puis après, le cours de ma vie a fait que j'ai déménagé, je suis arrivé ici en Bretagne. Et j'ai eu envie d'en fabriquer parce qu'il y a aussi, à l'époque, pas de fabricants en France. Enfin, il y en avait un. J'avais des envies de créer mes instruments, sachant que sur le marché, il n'y avait pas grand-chose de disponible à part quelques importations qui venaient d'Australie et d'autres de Hollande. Je suis allé rencontrer des luthiers, des facteurs de bombarde, de flûte en Bretagne, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, qui m'ont expliqué comment ils faisaient. Bon, après, quand je leur montrais ce que je voulais faire, ils étaient là, oh, mais ça marchera pas, ça sera pas applicable. Donc, il a fallu que je transpose leurs idées, leur façon de faire, la dimension de mes instruments, parce qu'on n'est plus du tout dans les mêmes diamètres quand même. Donc là, je faisais les instruments en bois et ensuite, j'ai eu envie de changer la forme aussi parce que c'est un instrument qui est tout en longueur et qui n'est pas évident de se déplacer avec. On a quand même un instrument qui fait 1m20 et 1m80, qui peut peser 3, 4, voire 5 kilos et à porter à bout de bras en se déplaçant, c'est pas franchement confortable. Du coup, j'ai créé un instrument, enfin une forme plus compacte, de façon à ce que ce soit plus proche du corps et que je sois plus libre de mes déplacements. Et j'ai obtenu un didgeridoo qui ressemble énormément à un saxophone, en fait. C'était pas l'objectif, le saxophone, mais c'est mon besoin de déplacement qui a créé cette forme-là. Entre-temps, il y a eu d'autres fabricants qui ont commencé à fabriquer des instruments. Il y en avait certains qui avaient déjà commencé à proposer des instruments accordables. On pouvait changer de note. Et moi aussi, ça me taraudait bien, cette idée-là. Parce que le didgeridoo, c'est comme un instrument qui n'a qu'une seule note. Et ce qui fait que quand on joue avec d'autres musiciens, ça bloque la ligne de basse. Elle est figée à une note. Quoi. C'est pas évident après pour que la grille harmonique puisse être riche. J'avais envie de créer quelque chose aussi qui puisse permettre de jouer avec d'autres musiciens. Mais bon, j'avais pas plus d'idées que ça que les autres collègues. Quoi. Donc j'avais laissé tomber en me disant que de toute manière, je proposais pas mieux qu'eux. Donc j'allais pas monter sur leur plate-bande. En fait, c'est en regardant mon instrument que j'avais courbé en forme de saxophone, je me suis rendu compte que j'avais deux côtés parallèles et que en fait, mon instrument, je pouvais très bien rallonger ces deux côtés parallèles et puis mettre des coulisses dedans. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur un instrument à coulisses qui permettrait de changer de note beaucoup plus facilement que ce que les autres instruments proposaient. Voilà.
Ok, à Gévidout, Sandrine, tu veux dire si pour Ramon évite Penos Ober en Evesiadenou, à Kemer Place en Evesiadenou y est ?
Ya, Mirel Ober, je suis d'Enebet. Truc à la Caronon, d'Aldune.
Kedarmerer, parce que nous, Kedarmerer.
Mais Mouin, de Chico Evet, à Goudarest, Zouim, le guerrier du Rue Brezon, à Gepkin. Ya. À Neusquet, dans la lycée Idi, lycée ADZ, tu me sors à Radio, que j'ai en prestette à Réseau Gunit. Ya. Je pense que Spade, Zouenol, mais qui peut me faire faire des outons ?
Ya.
On aimait les maîtriser que Robert.
Il y a mes verniers, les mécanes, les verniers, les erronettes, on dirait du retrait d'un. Au moins d'Adrucha, puis il y a des bars. En méga soin de Zarguer, qui vaut une des Glenas, qui n'a pas
besoin
de moins d'un Glenas.
Les Vaudivois, les
Là, nous sommes dans mon atelier, atelier de fabrication de didgeridoo, en centre-Bretagne. J'apprécie énormément la vie du coin, avec les gens qui sont là, le climat me plaît, ainsi que toute la beauté du centre-Bretagne, qui n'a rien à voir avec les côtes, mais qui est aussi très belle. Alors, au début, je l'ai fait en bois et laiton. Il était super lourd. Il faisait 5 kilos. La coulisse, ça faisait plus de 2 kilos. C'était juste la séance de muscu, quoi. Et après, j'ai cherché à trouver d'autres matériaux que le bois. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en voulant le faire en cuivre, je suis allé me rencontrer un formateur pour les luthiers cuivre. Puis, il m'a expliqué tout son métier. C'était vraiment génial, passionnant. Il m'a expliqué comment fabriquer un instrument en cuivre, quoi. Avec les différentes étapes, les différents outils qu'il faut. Et on a passé 3-4 heures. Et à la fin, il me dit, mais c'est pas en cuivre qu'il faut que tu fasses ton instrument. Il faut que tu fasses en carbone. Alors j'étais un peu dégoûté quand il m'a dit ça. Non, mais je viens pour apprendre à faire des instruments en cuivre pour faire un truc en carbone. Et après, il m'a expliqué pourquoi. Et en effet, quand il m'expliquait la fabrication des instruments en cuivre, je commençais à me décomposer parce que je voyais tout l'investissement technique, matériel et puis savoir-faire. Et là, je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. Ça va me prendre combien de temps avant de pouvoir y arriver, quoi. Alors pour fabriquer le corps de basse, j'ai eu besoin de faire appel à une entreprise, enfin c'est un centre de recherche spécialisé sur le prototypage en composite. Donc ils sont quand même polyvalents, plein de compétences et capables de voir aussi comment fabriquer une pièce avec l'idée que après plus tard il faut quand même que ce soit reproductible facilement avec un objectif de production en atelier. Donc eux ils avaient ce recul-là de pouvoir faire un prototype et se projeter plus tard, comment on le fait pour que ce soit productible, quoi. On a besoin d'une précision que l'imprimante 3D n'est, à mon avis, pas capable de faire. Il y a un état de surface aussi qui a besoin d'être vraiment super lisse pour que ça glisse bien. Puis on a besoin d'une densité de matière aussi dans les parois et que l'impression 3D ne fournit pas, à mon avis. Alors que le carbone, oui, le fournit, quoi. Et par contre, c'est toutes les pièces coudées, les pièces d'assemblage qui sont, elles, très spécifiques, que je fais faire en impression 3D. Puis après, il y a aussi quelques autres petites pièces mécaniques. Il y a des engrenages, il y a des axes qui sont là aussi des pièces standards, quoi. Bon, après, je fais de l'assemblage. Donc là, j'ai un tube de bambou, une canne de bambou qui a été brûlée avant, poncée, nettoyée à l'intérieur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est prévoir l'emboîtement. Le tenon dans le bambou qui va rentrer dans le pavillon. J'ai déjà creusé une mortaise sur le pavillon et là maintenant je vais creuser cette partie-là pour la rendre ronde et au bon diamètre.
Alors je suis un musicien un peu spécial, enfin disons que j'ai toujours fait un peu de la musique depuis que je suis petit. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai fait des cours de piano. Mais j'ai été très vite dégoûté par l'apprentissage scolaire et une prof qui m'a un peu brusqué dans mon parcours, notamment voilà, par la lecture de la musique. Et ça m'a mis un petit peu en froid avec l'apprentissage, on va dire, du solfège. Et moi, j'ai continué, en fait, à apprendre la musique en cachette, pour moi, on va dire, en secret. Et j'ai exploré plein d'instruments différents, et un peu la guitare, un peu le sax, un petit peu les percussions, parce que ça me faisait du bien. Et un jour, ben voilà, je crois que le didgeridoo, ça m'a reconnecté vraiment avec la musique. Et ça m'a redonné envie d'en faire quelque chose de plus, de le partager, d'essayer d'en faire quelque chose d'autre. Mais ça, je ne le pensais pas au début. En fait, ça s'est juste fait parce que ben, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui m'ont montré que c'était possible et qui m'ont un peu donné confiance en moi. Voilà. Et je ne pensais pas devenir musicien professionnel à ce moment-là. C'était vraiment une aventure de copains. Et puis, on a commencé hyper modestement à faire des choses. Et le corn bass, en fait, est arrivé au moment où il y avait cette envie de nous deux aussi d'explorer des nouveaux territoires de son. Maël explorait beaucop de sonorités avec le handpan. Déjà, didgeridoo et handpan, c'était deux choses qui marchaient extrêmement bien ensemble au niveau des tonalités, au niveau des rythmiques qu'on pouvait faire, au niveau aussi des styles de musique dans lesquels on s'orientait. Et l'arrivée du corn bass là-dedans a rajouté une dimension extraordinaire pour nous. Et ça a été sublimé par la suite par aussi l'intervention d'un troisième musicien qui s'appelle Joe et avec lequel j'ai appris énormément aussi par le didgeridoo, par la rythmique. Et puis, il est joueur de didgeridoo et flûtiste, ce qui fait que voilà, mélanger de la flûte, qui est un instrument plutôt aigu, avec le corn bass, qui est un instrument grave, ça a donné une toute nouvelle dimension qu'on a pu vraiment tester avec ce projet qui s'est appelé Dojoma et qui nous a fait beaucoup voyager.
À partir du moment où j'avais compris que j'avais deux tubes parallèles et que tu pouvais faire coulisser, ce qui faisait que mon embouchure ne bougeait pas, mais c'est le U qui pouvait descendre vers le bas. Donc du coup, il n'y avait pas de déplacement du musicien, mais un déplacement des tubes. Et c'est pour ça que je me suis dit que là, c'était faisable. J'ai ajouté des repères tactiles. C'est une bande de bois, comme une touche quoi, de guitare, sur laquelle j'ai rajouté une surépaisseur, comme des frettes. Donc il y en a qui sont en surépaisseur et d'autres qui sont en creux. Les surépaisseurs, c'est les notes blanches sur le clavier du piano, et ceux qui sont en creux, c'est les notes noires sur le piano, quoi. Alors ça, c'est bien pour apprendre, et puis au bout d'un moment, en fait, on l'a dans le corps, quoi. C'est dans le mouvement du bras, on sait où on est, quoi. Comme le travail du trombone à coulisses, on a des repères physiques par rapport au placement du pavillon, ou la distance à l'embouchure, et puis au bout d'un moment, on l'a dans le bras, quoi, à force de le travailler et de le répéter. C'est assez bluffant ouais, de voir ces deux ensembles qui se déplacent comme ça. On voit la frette qui se descend, alors qu'avec la manette qui descend, mais elles ne descendent pas à la même vitesse. J'étais obligé d'avoir une double coulisse, autrement on n'arrivait pas à avoir toute la tessiture sur un octave. Et pour déplacer deux coulisses l'une sur l'autre, j'ai créé un mécanisme d'engrenage, ce qui m'a permis de déposer un brevet sur cet instrument.
Donc là, rendront une canne qui n'est pas ronde. Ça, à la main, ça prend plus de temps que de passer au tour. Mais on est obligé de faire comme ça. Toujours plaisir de travailler à la main quand même. Tu vois, ce qui est bien dans mon métier, c'est qu'en fait, tu fais des choses qui sont à la fois, toi, ça c'est à l'œil, quoi. Enfin, c'est ressenti, puis on ajuste et ça rentre nickel. Travail autour, précision avec aussi pas mal de savoir-faire. Et puis quand je travaille sur les camps de basse, en fait, là, il faut que j'ai des précisions au dixième de millimètre. Toutes mes coulisses soient bien alignées, quoi. Ouais, je trouve ça génial de pouvoir travailler sur différents plans de précision, de qualité, et puis avoir du travail de conception aussi. Donc là, fait travailler la tête, quoi. Travailler sur plan, tourner sur des logiciels aussi, de façon à faire de l'acoustique. Alors déjà au départ, moi quand j'ai fini mon premier proto, j'étais super content. Et en fait, je me suis dit, mais je sais pas en jouer. Voilà l'ampleur du challenge. J'avais compris l'intérêt de cet instrument. Et après, il faut convaincre les musiciens de l'intérêt de cet instrument par rapport aux autres didgeridoo. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Pour ça, il n'y a rien de mieux que des faits, quoi. Il faut jouer dans un groupe avec d'autres musiciens. Moi, c'est là où ça s'arrête, mes compétences, dans le sens où je suis plus fabricant que musicien. Heureusement, j'ai des musiciens qui me suivent et qui font ce travail-là, en fait, de faire évoluer l'instrument, de rechercher les possibilités de jeu qu'on peut avoir avec et d'expérimenter. C'est eux mes démonstrateurs, en fait, plus que moi. Moi, j'ai cherché aussi à rencontrer d'autres types de musiciens, donc pas que des joueurs de didgeridoo, donc des joueurs de trombone, des joueurs de tuba. Je suis allé, entre autres, au Salon de la Musique à Paris, mais c'est pas si évident que ça, en fait. Là, j'avais encore un autre challenge, c'était faire comprendre à des musiciens qui font du tuba ou du trombone que cet instrument peut apporter d'autres choses dans leur musique. Sachant que, autant pour les joueurs de didgeridoo, il faut un an à deux ans pour pouvoir transposer toutes leurs connaissances dans la pratique du didgeridoo à la pratique du corps de basse. Et ben, pour des musiciens de type tuba trombone, ça va être aussi le même challenge. Parce que eux, bon, ils ont l'habitude de changer de note, mais ils n'ont pas l'habitude de travailler la texture du son comme on fait au didgeridoo. Et puis, il y a une grosse différence de colonne d'air aussi. Donc, c'est pas évident de vendre un instrument nouveau, en effet. Moi, j'ai quand même un petit avantage dans le sens où c'est des joueurs de didgeridoo qui comprennent l'intérêt de cet instrument pour pratiquer avec d'autres musiciens dans des groupes. Les quatre premiers qui ont acheté un corps de basse, ils ont pris des risques. Puis ils ont aussi tout le côté recherche comment on en joue. Ça prend des années tout ça, hein, avant de pouvoir produire quelque chose sur scène. Donc là maintenant, moi je suis au stade où j'ai autant besoin des premiers musiciens qui ont acheté cet instrument, qui commencent à créer, à composer. C'est une collaboration en fait, entre eux et moi pour pouvoir faire développer cet instrument.
Le corps de basse, je l'ai découvert en 2015 grâce à un ami qui m'a montré un reportage sur une télévision française. Et j'ai découvert le travail de David Defoy, un facteur de didgeridoo breton. Et j'ai fait un voyage pour aller le rencontrer, voir comment est-ce qu'il travaillait dans son atelier. Et je lui ai demandé si voilà, c'était possible de faire partie des premiers pionniers qui allaient pouvoir explorer les nouveaux sons avec cet instrument. J'avais déjà commencé le didgeridoo, mais j'étais pas un joueur très avancé. On peut même dire que j'étais un joueur plutôt débutant. Mais j'étais un joueur qui cherchait assez rapidement à pouvoir changer de note pendant que je jouais. Donc les premiers didgeridoo que j'avais, c'était des didgeridoo qu'on appelle slide. Donc en gros, des didgeridoo qui avaient une coulisse. Les premières coulisses que j'avais, c'était des coulisses avec des tubes en PVC. Ensuite, j'en ai trouvé des qui étaient faits avec de la fibre de verre, fabriquée par des Italiens. Et je me suis contenté de ça parce que c'était les seules choses que je trouvais. Et puis, on pouvait faire 2-3 notes en cours de jeu. Donc, on pouvait changer de notes en cours de jeu. Mais c'était vraiment très limité. Et mon but, c'était vraiment de pouvoir essayer de jouer le plus possible du didgeridoo avec d'autres musiciens. Et ainsi progresser parce que voilà, autour de moi, il y avait vraiment presque personne qui jouait du didgeridoo. Et ma façon d'apprendre la musique, on va dire, c'était surtout en jammant et en essayant de jouer avec le plus de musiciens possible. C'est important de trouver, je crois, un instrument qui est peut-être porteur de force ou qui reconnecte les gens avec la musique. Et si c'est le handpan, un didgeridoo, un piano, une clarinette, une guitare ou simplement le chant, ben pourquoi pas en fait. Et j'ai envie de dire, peu importe la méthode, tant que les gens, ça leur donne l'envie de jouer et de s'exprimer avec ça et que ça leur fait du bien, pourquoi pas essayer des trucs.
Il y a un nouvel univers sonore que j'apporte avec cet instrument. Sauf que là, en fait, tous les musiciens qui démarrent avec cet instrument sont des défricheurs, en fait. Pour l'instant, le corn bass, c'est uniquement pratiqué par des joueurs de didgeridoo. Donc, c'est vraiment un tout petit milieu. J'aimerais un jour pouvoir entendre aussi des joueurs de trombone ou de tuba se mettre à cet instrument, voir ce qu'ils en font. Parce qu'ils ont aussi toute une culture musicale dans d'autres domaines que les joueurs de didgeridoo n'ont pas. J'aimerais bien que cet instrument aussi trouve sa place, donc aussi bien dans du classique que dans du jazz, que des gens composent et créent dans d'autres esthétiques, quoi. Puis autrement, j'ai aussi d'autres projets d'un instrument plus conséquent en taille. Mais j'en dis pas plus, c'est un... la surprise pour qu'il y ait dans quelques années. C'est plus une évolution du corn bass, mais à une autre échelle.
Instrument acoustique singulier, une série documentaire de Jean-Bernard Roser avec la participation de David Defoy et Ludovic Winkler. Musique, Ludovic Winkler avec le groupe de Joma et I Benny. Merci à l'école de breton Skol Diwan Karaez. Production, ASBL soundorigin.be, accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique et soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.